L'avenir de la haute mer se joue ce mois-ci à New York et les enjeux sont immenses. La haute mer recouvre près de la moitié de la planète. Pour faire simple, c'est toute l'eau qui se trouve à plus de 370 km des côtes. Ce sont des zones qui suscitent la convoitise et qui échappent pour le moment à tout cadre juridique. Mettre en place des règles, c'est justement l'objectif d'une conférence de l'ONU qui s'ouvre demain et c'est la première fois qu'un tel sommet international est organisé. Bonjour Christian Bucher.
Bonjour à tous.
Vous êtes professeur d'université, vous dirigez le centre d'études sur la mer de l'Institut catholique de Paris et vous avez écrit notamment, vous avez écrit plein de livres, mais notamment La grande histoire vue de la mer. Il y a donc aujourd'hui encore, en 2018, une zone grande comme la moitié de la planète dans laquelle on est libre de faire ce qu'on veut, dans laquelle il n'y a quasiment aucune règle.
Et il y a quasiment tout, surtout. La mer, vous savez, ça avait été les conclusions du Grenelle de la mer, contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, hein, un avenir qu'on pourrait qualifier de désirable. Vous savez, la mer, c'est quoi d'abord? Bon, on en vient, donc chacun a une petite idée, mais c'est pas qu'une surface bleue. La mer, c'est le seul élément naturel en quatre dimensions. Vous avez la surface, d'ailleurs cette surface a des bosses, c'est comme ça qu'on essaie de voir à peu près à quoi ressemble le relief marin. Vous avez la tranche d'eau, l'épaisseur d'eau, vous avez le sol terrestre marin, on dit souvent « oh la Terre devrait s'appeler la mer et non pas parce que de loin c'est bien une balle bleue ». Non, mais c'est oublier que 72% des terres de la planète Terre sont des terres émergées. Et puis il y a même une quatrième dimension à la mer, c'est qu'on sait aujourd'hui que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, 46% exactement de la haute mer, de la planète Terre, n'est pas protégée. Et c'est incroyable parce que vous avez tout. Vous savez, la biodiversité marine, c'est 80% de la biodiversité terrestre. Pourquoi? Pas parce que la mer est grande, mais parce que l'eau de mer a 4,5 milliards d'années contre 5 millions pour la Terre. Donc le cycle de la vie a pu aller beaucoup plus loin. Alors, il y a effectivement une convention qui existe, il y a eu un nouveau droit de la mer, mais enfin qui date un peu, il date de 1982 et il s'applique depuis 1994, qui a abouti à ce qu'on appelle un peu juridiquement une territorialisation de la mer.
Donc il y a quand même un cadre.
Il y a déjà un cadre pour les eaux, je dirais pas côtières. Avant, vous n'aviez que les eaux territoriales, en gros 12 000 marins. Et on a créé en 1982 ce qu'on appelle des ZEE. Des zones d'exclusivité économique. Tout pays qui est bordé, notamment principalement d'un océan, a une zone d'exclusivité économique de 200 000 marins. Alors, vous l'avez dit, 200 000 marins, c'est 200 fois 1852 mètres, ça fait exactement 372 kilomètres. C'est-à-dire que la moindre île qui appartient à un pays, si vous voulez calculer son domaine maritime,
lui permet
vous
d'avoir
faites un périmètre.
Domaine maritime
voilà,
assez grand, oui.
Avec un périmètre, avec un rayon de 372 kilomètres. Et disons-le en passant, parce que c'est l'avenir de la France, ce serait la nouvelle frontière de la France. La France, depuis donc 1982-94, l'application de cet accord, déjà sous l'égide de l'ONU, c'est le deuxième domaine maritime au monde. Tout juste derrière le premier qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, loin devant le troisième qui s'appelle l'Australie, puisque la France, avec ses 11 millions de kilomètres carrés, a 2 millions de kilomètres carrés de plus que l'Australie, et il y a tout dans la mer. C'est ça qu'on ne mesure pas. Alors, au-delà de ces 372
Qu'est-ce
kilomètres,
qui se passe alors, au-delà?
Bah, c'est le statut de la haute mer.
Chacun fait ce qu'il veut?
Bah, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le premier arrivé, premier servi. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on mesure bien parce que, et encore, c'est nouveau. Il suffit de voir la COP de Paris, c'est à peine si on intégrait l'océan. Alors que l'océan, c'est quand même la machine océan-climat. Donc aujourd'hui, on est en train de prendre conscience que, même si ça fait penser à l'infini, la pression qui est portée sur la mer, aujourd'hui, est telle qu'il convient de la protéger.
Alors justement, pourquoi ça préoccupe l'ONU? De quelle pression parlez-vous? Quelles sont les menaces?
Alors, les menaces, si vous voulez, c'est à la fois la chance, c'est qu'on se tourne de plus en plus vers la mer, parce que vous avez tout dans la mer. Vous avez tout dans la mer, d'abord vous avez du pétrole, vous avez du gaz. Moi personnellement, je suis pas adepte du CO2, mais le pétrole est issu de la décomposition d'algues, donc c'est bien normal que vous en trouvez au fond des océans. Et puis surtout, on va se tourner de plus en plus vers un certain nombre de minerais qui se trouvent au fond des mers. Alors c'était pour partie déjà protégé, mais il convient d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que si vous prenez ce qu'on appelle les terres rares aujourd'hui, les terres rares, ça porte très mal son nom, terre comme la terre, c'est en fait 17 métaux stratégiques qu'il y a un peu partout ici.
Dont on en a besoin pour faire les téléphones portables.
Les téléphones portables, comme ça, même les pales des éoliennes. Bon, la Chine aujourd'hui exporte 92% des terres rares mondiales et le président chinois a décidé de baisser progressivement ses exportations. Donc tout naturellement, on va les chercher au fond des mers. Et la France d'ailleurs est très bien placée puisque au large, l'archipel de la société Tahiti pour faire bref.
Et ça, c'est dangereux d'exploiter les fonds marins
alors
comme ça?
pas dangereux, tout dépend dans quelles conditions c'est fait. Et tout le débat justement de ce statut de la haute mer, c'est faire en sorte, pas simplement sur l'environnement, mais sur tout un tas de sujets, que les choses soient régulées.
Pour que ça soit pas empêché, mais c'est encadré.
C'est encadré, c'est surveillé, c'est faire un certain nombre de protocoles pour pouvoir lutter contre l'érosion, pour savoir ce que l'on peut faire, pour créer aussi, c'est essentiel, d'ailleurs ça sera le premier volet sur lequel on va à partir de demain à l'ONU travailler, c'est les aires marines protégées. Vous savez, vous avez eu une convention sur la biodiversité, sur la diversité biologique qui a été décidée à Nagoya en 2010, qui prévoit que 10% des océans devront être convertis en aires marines. C'est-à-dire des zones permettant à la biodiversité, aux espèces de ne pas être pêchées pour se reproduire. Ça veut pas dire qu'il s'agit de stopper la pêche, il s'agit qu'il y ait plus de poissons en périphérie et d'avoir des poissons plus gros. Tout ça, il faut le définir. Aujourd'hui, on n'est même pas à 1% de la surface maritime protégée. Donc, il s'agit de mettre au point des aires marines protégées, de protéger la tranche d'eau, c'est-à-dire l'épaisseur d'eau. Imaginez que, il y a 15-20 ans, on pensait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, avec le développement de ce qu'on appelle la métagénomique, c'est-à-dire faire un séquençage, non pas de gènes isolés mais croisés, les biologistes marins pensent pour certains qu'on ne connaît pas plus de 3% de la microbiologie. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire des organismes vivants dont on aura besoin pour notre santé. Car aussi magnifique que nous sommes ce matin et à peu près frais, nous sommes quand même des poissons desséchés. Donc si vous voulez, oui, je dirais, il y a tout dans la mer. Nous sommes dans une période de croissance démographique incroyable. On était 1 milliard de terriens sous Napoléon. On va être 9 milliards en 2050, avec une population mondiale qui va se trouver concentrée à 80% sur une bande littorale de 75 km. Donc oui, la mer, on puise de plus en plus dedans. On fait un peu n'importe quoi avec. Vous savez, la mer, et je terminerai peut-être par ça, et là aussi, c'est un des objectifs de la Convention. On n'en parle jamais, on casse parfois les pieds avec les continents de plastique, merci de pas le faire ce matin, mais c'est très important, ça monte l'ampleur de la pollution. La véritable menace qui pèse sur les océans, c'est l'acidification des océans. Pourquoi ? Parce que les océans nous rendent un service immense, c'est d'absorber nos émissions de CO2 dans un ordre de grandeur de 30 à 40%, peut-être plus près de 37%, mais depuis qu'on fait ça, les océans s'acidifient, c'est en train aujourd'hui de provoquer une rupture d'équilibre de la faune et de la flore. Donc on voit, il faut sortir de tout ça, même au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, il y a des règles à peu près internationales pour poursuivre les pirates n'importe où. C'est pas toujours le cas en ce qui concerne, si vous voulez, par exemple, le narcotrafic ou autre chose. Il faut savoir qu'on en est au stade où on arraisonne des sous-marins narcotrafiquants.
Et est-ce que tout le monde est conscient de tout ce que vous venez de dire ou est-ce qu'il y a des pays réfractaires ? Comment ça va se passer à l'ONU, là, cette semaine ?
Oh, ça va être une foire d'empoing. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que l'absence de droit fait qu'à la limite, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc, c'est l'intérêt d'un certain nombre de pays riches. Vous savez, il y a peu de pays qui sont en mesure aujourd'hui d'exploiter des matières premières à 3-4 km de profondeur. La France est partie avec les États-Unis d'Amérique, des pays leaders. Les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas signé les accords de Montego Bay de 1982, applicables depuis 1994.
Donc, les États-Unis font partie des pays réfractaires.
Oui, tout à fait.
La France est dans quel camp, elle ?
Dans le camp des pays qui sont pour une réglementation internationale. La France est à peu près responsable, même la France avec son deuxième domaine maritime, aujourd'hui respecte le statut des énergies marines renouvelables. Par contre, elle n'a pas de politique maritime, donc on n'en fait rien, ce qui est dommage.
Merci beaucoup Christian Bucher, professeur d'université. Vous avez écrit notamment « La grande histoire vue de la mer », ça a été publié au Cherche Midi. Et vous dirigez aussi le centre d'études sur la mer de l'Institut catholique de Paris. Merci d'avoir été l'invité
Merci à vous, bonne
de 6h20 sur France Inter.